Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce début de carême, l'Église nous fait méditer ce bel évangile de la tentation du Christ. Et lorsque on va en Terre Sainte, eh bien nous voyons effectivement, à côté de Jéricho, non loin de Jéricho, une sorte de désert qui est composé eh bien, de quelques grottes, une sorte de falaise avec ces grottes dans lesquelles on pouvait se réfugier et passer du temps en méditation. À ce niveau-là, eh bien, il existe encore un monastère qu'on appelle Monastère de la Tentation. Monastère de la Tentation qui est tenu par des orthodoxes et que l'on peut visiter. Alors, eh bien, on imagine notre Seigneur partant de la ville pour aller se réfugier au désert, pour aller dans un lieu où il n'y a absolument rien. Il est là, tout seul, et que va-t-il faire? Eh bien, pendant 40 jours et 40 nuits, il va prier, il va jeûner, il va faire pénitence pour chacun d'entre nous, puisque lui-même n'a aucune raison de faire pénitence. En même temps, il prépare son ministère. Il a besoin, eh bien, vraiment, de se retrouver seul avec son Père pour pouvoir ensuite, eh bien, aller vers les hommes. Il lui faut, j'allais dire, déjà vaincre dans un premier temps le diable pour pouvoir aller vers les hommes avec un cœur toujours purifié, avec une intention toujours extrêmement droite. Avant de faire les choses, il faut toujours vérifier l'intention. Le tentateur ici va justement permettre au Christ de vérifier que son intention est absolument droite. Lui qui est le Messie, lui qui est en vérité le Fils de l'homme, comment va-t-il se comporter par rapport à ce qu'il est, par rapport au pouvoir qu'il possède? 40 jours et 40 nuits de jeûne, c'est toujours pour nous l'exemple, en ce début de carême, de nos 40 jours et 40 nuits de purification. Parce qu'avant d'arriver à la fête de Pâques, avant d'arriver à cette ultime fête de l'année liturgique, ultime en ce sens que cela est la plus haute, eh bien nous avons besoin, nous aussi, de nous purifier. Sinon, eh bien nous n'allons pas profiter du Triduum Pascal, nous n'allons pas profiter spirituellement de la fête de Pâques. Alors nous devons faire comme notre Seigneur, nous retirer à l'écart, intérieurement, évidemment, pendant 40 jours et 40 nuits. C'est aussi le symbole eh bien, de cette purification. C'était déjà prévu dans l'Ancien Testament par ces 40 jours et 40 nuits de déluge qui vont purifier l'humanité pour pouvoir eh bien, être une humanité nouvelle en Noé. C'est aussi les 40 ans, cette fois-ci, dans le désert, 40 ans d'exode pour les Juifs avant d'arriver à la terre promise, avant d'arriver au renouvellement de leur existence, on pourrait dire, eh bien, il faut qu'ils passent ces 40 ans dans le désert de purification. Et c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire au désert, comme notre Seigneur Jésus-Christ est conduit par l'Esprit, nous dit la Sainte Écriture, qui le conduit au désert. Le carême n'est pas d'abord et avant tout une ascèse à la force de nos poignets. C'est d'abord l'Esprit Saint qui va nous conduire au désert. C'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église dans le carême et donc qui conduit chacun d'entre nous qui formons l'Église eh bien, à avancer dans ce carême. Et il nous faut avoir cette docilité à l'Esprit de Dieu pour faire un vrai carême. S'il n'y a pas de docilité, alors eh bien, nous faiblirons assez rapidement. Il faut vouloir faire le carême, c'est déjà être docile au Saint-Esprit que cela. Il faut trouver les moyens de faire le carême et il faut ensuite demander la persévérance au Saint-Esprit pour faire effectivement un vrai carême en employant les moyens qu'il nous a trouvés pour faire ce carême convenablement. Mais évidemment, le jour où nous nous y mettons vraiment dans la vie spirituelle, le jour où nous commençons à être guidés par le Saint-Esprit, dociles au Saint-Esprit, il y a toujours un autre esprit qui est intéressé. L'autre esprit intéressé par notre vie spirituelle, c'est l'esprit mauvais, c'est l'esprit tentateur. Et cela nous révèle la vraie dimension du combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement notre personne, c'est beaucoup plus que cela. Certes, il y a notre niveau qui constitue un réel combat spirituel, mais l'enjeu nous dépasse toujours. L'enjeu, c'est finalement le grand combat qui se fait entre Dieu et le diable. Et nous appartenons à ce combat. Nous ne sommes pas seuls, heureusement et malheureusement, pourrions-nous dire. Cela nous dépasse, nous sommes comme englobés dans le grand combat du diable contre Dieu. Nous voulons appartenir à Dieu. Nous voulons mettre le diable en échec dans nos vies. Comment cela va-t-il être possible? Comment le tentateur qui a été vaincu aujourd'hui par le Christ va à nouveau être vaincu par nous, ou plutôt par le Christ en nous pendant ces 40 jours? Eh bien, il nous faut méditer cette victoire du Christ. Il nous faut voir que le nouvel Adam, ici, véritablement présent dans cet évangile, va triompher du diable. L'ancien pêche, l'ancien, eh bien malheureusement, va se rendre au diable et va pécher, alors que nous, eh bien, nous ne voulons pas. Cette victoire du nouvel Adam sur le diable annonce la victoire totale qui sera celle de la croix et qui sera celle ultimement du jugement final. Et nous voulons anticiper véritablement cette victoire pour nous. Nous voulons que cette victoire du Christ sur la tentation, du Christ à la croix, du Christ au jugement final, eh bien, se répercute et une véritable réalité dans notre âme aujourd'hui. Pour cela, eh bien, il ne faut pas être somnolent, il faut pendant ces 40 jours de carême être vigilant. Il nous faut faire attention aux ruses du diable. Le Christ nous a mérité, dans cet épisode de sa vie, toutes les grâces dont nous avons besoin pour résister aux tentations. Quand nous pensons eh bien, qu'elles vont nous emporter, quand nous pensons eh bien, que nous sommes trop faibles pour résister à la tentation, eh bien, c'est parce que nous n'avons pas encore conscience, assez de foi en cette victoire de notre Seigneur. En cette victoire non seulement par rapport à lui, mais surtout et avant tout pour nous. Parce que toutes les grâces que le Christ est venu apporter dans le monde, ce n'est pas pour lui. Il est plein de grâces. Donc c'est pour nous les donner qu'il passe à travers ces épreuves. Le Christ n'est pas seulement un beau modèle à suivre, comme pourrait l'être n'importe quelle bonne personne. Il nous mérite et nous donne la grâce de réaliser le modèle qu'il offre à nos yeux. Alors nous devons lui demander en ce début de carême, eh bien spécialement, la résistance à la tentation. Résistance ferme, résistance persévérante au tentateur. Le diable s'approche toujours au moment opportun. Et on ne sait que trop, notre Seigneur nous en montre l'exemple, le diable vient l'attaquer au bout de 40 jours et 40 nuits de jeûne, quand véritablement il a faim. Nous savons que pour nous c'est pareil, c'est quand nous sommes fatigués par exemple, c'est quand nous sommes moins vigilants, c'est quand il y a une petite faiblesse quelque part, que le diable s'engouffre immédiatement dans la brèche. Il veut, ici, dans l'Évangile, le diable, découvrir la personnalité du Christ, car il craint toute sainteté. Et là, il se trouve face à quelqu'un qui résiste au mal, qui est assez exceptionnel pour pouvoir ne pas manger pendant 40 jours et 40 nuits. Le Christ devient ainsi quelqu'un de potentiellement dangereux pour le diable. Donc, il intervient. Et pour nous, c'est la même chose. Et il va tester systématiquement le Christ parmi toutes les tentations possibles. Le diable n'intervient que quand il y a vraiment urgence. Et ici, il y a urgence. Quand le monde et le vieil homme n'ont pas de prise sur un être, alors il va arriver. Il cherche une faille, il attaque sur tous les plans pour voir quelle va être notre faiblesse. Alors, par rapport au Christ, il va d'abord eh bien, lui proposer les choses sensibles. Il va lui proposer spécialement d'user de son pouvoir, si pouvoir il y a, parce qu'il y a toujours une interrogation du diable face à la personne du Christ, user de son pouvoir pour transformer les pierres en pain. Voilà quelque chose du plan sensible. Il y a un intérêt pour le Christ à transformer ses pierres en pain parce qu'il a faim. Il y a une faille purement naturelle qui n'est pas un péché, mais qui est simplement une faille. Il y a la faim. Alors, le diable attaque ici. Il souhaite que le Christ use de son pouvoir pour des biens sensibles, pour lui-même, pour sa propre satisfaction. Et on pourrait dire, eh bien, qu'on voit ici une anti-multiplication des pains. Et c'est vrai que quand on y pense, lorsque notre Seigneur fait une multiplication des pains, premièrement, ce n'est pas pour lui, c'est pour nourrir les autres, et en plus, eh bien, la multiplication des pains n'est là que comme signe pour quelque chose de supérieur, à savoir, eh bien, montrer soit une préfiguration de l'Eucharistie, soit montrer que sa parole est vraiment nourriture. Et d'ailleurs, on peut penser qu'il y a une explication vraie en cela, puisque la réponse de notre Seigneur au diable va être justement de dire que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche du Seigneur, sortie de la bouche de Dieu. Cela veut bien dire que, ordinairement, la multiplication des pains n'est pas pour contenter les estomacs, mais qu'elle a une finalité bien supérieure. Si ici, aujourd'hui, le Christ refuse eh bien, de faire cette multiplication des pains, c'est tout simplement pour ne pas user d'un pouvoir à la seule fin sensible, pour son bien-être personnel. Il n'est pas là pour lui, il est là pour les autres. Aussi pour nous, eh bien, il nous est enseigné ici l'usage correct des biens sensibles. Les biens sensibles sont toujours pour une finalité supérieure. Si nous nous contentons eh bien, des biens sensibles pour eux-mêmes, alors eh bien, un jour, un, il faudra s'en séparer, et deux, nous mourrons. Alors, pendant ce carême, eh bien, on est invité spécialement à faire jeûne des biens sensibles. Jeûne spécialement eh bien, par rapport à la nourriture, et ce n'est pas juste une petite mortification comme cela de temps en temps. Il faut réapprendre, je crois, comme l'a enseigné Benoît XVI, au carême de l'année dernière, réapprendre la finalité spirituelle du jeûne, qui est eh bien, le fait de devenir plus fort, son âme doit devenir plus forte par rapport à son corps. Réapprendre la domination de tout l'aspect sensible en nous par le jeûne. Nous sommes corps et âme, mais il y a un ordre, et ce doit être l'âme qui dirige le corps. Aussi, bien, je vous invite non seulement à faire jeûne, évidemment, le vendredi saint, mais peut-être, pourquoi pas, en ce carême 2010, de passer à la vitesse supérieure, d'aller au-delà de l'obligation canonique stricte, et pourquoi pas de faire jeûne tous les vendredis. On prend un repas par jour. Au début, c'est peut-être un petit peu difficile, mais avec l'habitude, eh bien, on trouve cela même très agréable. Cela eh bien, nous donne trois quarts d'heure, voire une heure de plus pour vaquer à la prière, pour pouvoir faire autre chose, à la lecture spirituelle, etc. Alors pourquoi eh bien, ne pas faire jeûne ? Retrancher des biens sensibles pour acquérir la liberté de Dieu par rapport justement à ces biens sensibles. Ensuite, eh bien, comme le diable voit que cela ne prend pas par rapport au Christ, eh bien, il va tester sur l'orgueil. Renoncer aux biens sensibles, ma foi, cela est assez évident pour qui a une petite vie spirituelle déjà bien en place. Mais renoncer à l'orgueil, renoncer à ce qui est l'amour propre, à sa volonté propre, alors cela est beaucoup plus difficile. Et le diable va demander au Christ de faire ce geste spectaculaire et absurde, s'il en est, à savoir de se jeter du haut du temple. C'est acquérir la gloire, puisqu'il lui promet la gloire, à savoir que les anges viennent à son service, sans passer par la croix. Et le même mouvement eh bien, de descente, de se jeter du haut du temple, nous montre peut-être, ceci est une interprétation personnelle, mais une anti-ascension, à savoir que eh bien, le Christ, un jour, en étant passé par la croix, en étant soucieux spécialement de la gloire de son Père qui est première, eh bien, va passer par la croix et mériter son ascension glorieuse en faisant un retour au Père. C'est parce qu'il va aller sur la croix qu'il va avoir droit à être exalté plus haut que tous les hommes, plus haut que tous les anges, et ainsi avoir droit à ce service des anges, et non pas en faisant un acte absurde qui consisterait à se jeter du haut du temple. Ce qui compte pour le Christ, c'est d'abord et avant tout la gloire de son Père, non pas sa propre gloire, non pas le service des autres. Et il le dit bien, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Cela aurait été complètement l'inverse. Ici, ce serait sa propre gloire qui aurait été en jeu. Remarquez que le Seigneur est toujours bon avec ceux qui font les choses dans l'ordre, puisqu'ayant renoncé à être servi par les anges avec un acte absurde, il le sera, nous dit la fin de l'Évangile, une fois qu'il a résisté au tentateur. En vérité, quand on fait les choses bien, le Seigneur est toujours bon et nous comble. Mais il faut que les choses soient faites toujours dans l'ordre pour une finalité bonne. Pour nous, c'est l'humilité. C'est comprendre que nous devons, pendant ce carême, avoir comme unique souci, la gloire du Père, la gloire de Dieu, en se considérant comme rien et en comprenant que la gloire attendue n'est pas celle de la terre. La gloire que nous cherchons, c'est avant tout celle du ciel. C'est avant tout celle qui nous attend si nous avons l'humilité de passer par la croix sur la terre. Et si nous sommes en situation d'être glorifiés, si on peut ainsi parler, on doit toujours se rappeler et cet épisode, et pourquoi pas ce qui se passait autrefois lors du couronnement du pape. Lors du couronnement du pape, il y avait un clerc qui marchait devant la sedia gestatoria, où le pape était là, glorieusement régnant, et à un moment donné, avec un flambeau qu'il avait, il y avait un morceau d'étoupe qui était à côté de ce flambeau et qui brûlait. Et la fumée, montait devant le Saint-Père. Il se retourne, il fait la génuflexion et il dit « Sit transit gloria mundi ». Ainsi passe la gloire du monde. Celui qui est exalté plus haut que tous les hommes sur la terre, le pape lui-même, doit se souvenir que cette gloire humaine, elle passe un jour. Et que ce qu'il faut d'abord et avant tout regarder, c'est la gloire de Dieu. Enfin, pour terminer, le diable va tester le Christ sur la possession du pouvoir. Le fait, de vouloir régner sur tous les royaumes. Le diable est le prince de ce monde et il pense en être le roi, Il pense pouvoir donner tous ses royaumes, pouvoir donner spécialement le pouvoir. Et il est vrai qu'encore à l'heure actuelle, le pouvoir est quelque chose d'absolument terrible parce qu'il corrompt beaucoup d'âmes. Plus on monte, plus il y a un pouvoir réel, plus on aspire au pouvoir. Il a un certain pouvoir, ce diable justement, que certains lui demandent et lui demandent encore à l'heure actuelle, moyennant toujours d'ailleurs la même chose, à savoir l'adoration de sa personne. Et ceux qui pactisent avec le diable, bien souvent, commencent à voir un certain rayonnement, un certain pouvoir, malheureusement, pour terminer dans la déchéance souvent la plus totale. Alors, le Christ est le vrai roi. En vérité, le Christ est le vrai roi. Et il n'acquiert pas les royaumes de cette manière, en se soumettant au diable, en adorant le diable, en donnant cet hommage réservé à Dieu, à une pure créature, mauvaise. Il va se soumettre toutes les nations, oui. Mais pour se soumettre toutes les nations, il va le faire grâce à sa loi d'amour, par le règne de son Sacré-Cœur, qui est le lieu même, ce Sacré-Cœur, de l'adoration véritable rendue à Dieu. Aussi, pour nous, nous devons toujours chercher les bons moyens de faire advenir le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'utiliser de mauvais moyens, il ne s'agit pas de gagner en pouvoir, il s'agit avant tout de faire régner le Sacré-Cœur dans nos âmes, dans nos familles, dans nos nations, afin qu'en vérité, le Christ, eh bien, soit honoré toujours et partout, Dieu soit honoré et gouverne, eh bien, réellement et de manière sainte, eh bien, tous les peuples et toutes les nations. Alors, eh bien, en ce premier dimanche de carême, voilà un programme qui est lourdement chargé, comme vous pouvez vous en apercevoir. Mais il faut détecter, je crois, premièrement, quelles sont nos faiblesses. On n'a pas des faiblesses dans tous les domaines, on a des faiblesses uniquement dans quelques domaines, grâce à Dieu, et il nous faut prendre les moyens bien concrets, à l'exemple de notre Seigneur, pour pouvoir résister aux tentations et ainsi poser des actes bons qui vont enraciner les vertus, faire ainsi un bon carême et se retrouver dans la joie pascale au matin de Pâques, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.